Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons parler de toutes les questions principalement que nous avons reçues sur le site des lampadaires. Et voilà. Bon, bref, donc le thème principal, le premier thème pour l'instant, c'est la création avec une question de Nathalie. Toute cette création, tout ce monde d'illusions, la dualité, jour, nuit, etc., tous ces êtres vivants, du minéral à l'humain pour ne parler que de la planète Terre, toutes ces identifications à nos égos, toutes les émotions, les vies, etc., pourquoi? La source, ou bien Dieu, comme on voudra, étant une, s'ennuie-t-elle au point de créer le deux? On nous dit que c'est par amour, amour de l'amour, alors que se passe-t-il à l'origine? Un jeu, si merveilleux et incroyable soit-il, parce que la source une s'ennuie. On dit aussi que c'est pour se connaître elle-même la raison de toute la création. Curieux quand même, à un tel niveau d'intelligence infinie. Alors, c'est simple, je ne répondrai pas, j'irai complètement à cette question ce soir, puisque c'est la question primordiale qui est effectivement, je dirais, à l'origine de la création. Hein? Donc, ce qu'il faut savoir, on appelle ça le mystère. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu des écoles de mystère, parce que l'objectif, effectivement, c'est de savoir que l'un, au début, est comme une conscience, d'une certaine manière, qui est partout et nulle part. Et le truc, eh bien, je sais que dans mes conférences, je le dis assez souvent, à la longue, on s'emmerde. C'est bien d'être dans le temps présent, mais quand même, quelque part, on a envie de faire quelque chose, et surtout de découvrir qui l'on est. Et donc, avec cette question du qui suis-je, eh bien, ça a amené toute la création matérielle. Car il faut savoir que toute cette création matérielle dans laquelle nous sommes n'est que la construction mentale. C'est une construction, on va dire, totalement masculine, puisque l'intelligence infinie, par définition, est féminine. Tout est vibration dans l'univers, quelle qu'elle soit, même si elles ne sont pas constituées de matière. Et le reste, la matière, est une construction matérielle comme on construit des briques, des parpaings. Et puis à partir de là, on va pouvoir, je dirais, monter la maison, et puis après le mur d'enceinte, et puis enfin bref quoi. C'est-à-dire que c'est tout le jeu de construction. Et c'est pour ça qu'actuellement, dans la période que nous vivons, qui est ce qu'on appelle la période de l'ascension, c'est-à-dire c'est la prise de conscience. Je dirais, de cette construction et de la finalité de cette construction, et donc de passer ce qu'on appelle ce premier voile de l'oubli. Hein, ce voile de l'oubli est valable pour toute forme d'entité dans l'univers. Toute forme de conscience passera par le monde de l'oubli obligatoirement, hein, c'est-à-dire qu'elle devra découvrir les briques. Une à une, donc elle commencera à devenir un minéral, à s'incarner dans un minéral. Ensuite, eh bien, ce minéral va croître en fonction, bien sûr, du rayonnement solaire visible. Et on va appeler ça donc le végétal. Du végétal, eh bien, elle voudra introduire le mouvement. Et donc là, eh bien, un mouvement dynamique, puisqu'un arbre, bien sûr, c'est un mouvement, mais qui est tellement lent que il faut quand même du temps pour voir les branches pousser. Eh bien, il y a un mouvement qu'on va appeler l'animal, et ensuite, eh bien, le stade ultime, on va dire, ça va être d'avoir un mouvement intérieur, puisque les animaux n'ont pas de mouvement intérieur dans le sens qu'ils se meuvent effectivement extérieurement, hein, mais intérieurement, ils sont directement connectés, on va dire, à la source et se posent pas de questions. Ils vivent l'instant présent, point barre. Et donc, ils sont en harmonie. Et quand on passe au quatrième stade, c'est-à-dire celui de l'humain, eh bien là, l'objectif, c'est d'aller au-delà, bien sûr, du corps physique et donc de toutes ses capacités de mouvement. Et c'est là que, comment dire, le processus de l'ascension intervient. Donc c'est un changement vibratoire important. Puisque, si vous vous rappelez un petit peu l'échelle des dimensions que j'ai données, on va dire qu'il y a 24 dimensions qui correspondent à 24 contenants différents entre nous et la source, c'est-à-dire entre nous et Alcyone, c'est-à-dire le centre de la galaxie. Donc, ces 24 dimensions se divisent d'abord en deux, hein, c'est-à-dire qu'il y en a 12 et 12, il y a avec le Soleil qui est au milieu. Donc, de la dimension, on va dire 1 à 12, eh bien ça va être le petit soi, hein, Et donc, ça va être la partie masculine de l'esprit directeur. Et la partie féminine, c'est-à-dire celle qui est la plus proche de la source, va de la 13e dimension à la 24e, c'est-à-dire entre le Soleil et la source de la galaxie. Donc ça, c'est le grand soi, tout en majuscule. Et il est évident que comme nous provenons de la source, eh bien, tout passe par le grand soi. Ensuite, le grand soi envoie, on va dire, ses réflexions à l'esprit directeur, et l'esprit directeur, qui est au niveau du soleil, enverra les consignes, bien sûr, au petit soi. Donc le petit soi le plus proche de lui, on l'appelle le soi supérieur. Donc c'est le petit soi supérieur, ou ce qu'on appelle globalement l'âme. Et ensuite, eh bien, ça c'est donc entre la 7e et la 12e dimension. Et ensuite, bah, de la 1 à la 6, on va dire, nous sommes dans le corps de matière, hein, donc c'est le petit soi, hein, le soi inférieur, hein, donc le sous-sous-logos. Et ce petit soi est forcément rattaché, ce petit soi inférieur est forcément rattaché au petit soi supérieur. Et c'est pour ça que le 7e chakra, c'est un petit peu la tringle à rideau, hein, c'est-à-dire, enfin la tringle à rideau, la penderie, si vous voulez, la tringle de la penderie. Nous sommes j'ai même plus le mot. Enfin, le truc, le porte-vêtements, là, le truc avec le crochet sur lequel on met les fringues, eh bien, on peut dire que notre sixième chakra s'accroche sur la barre du septième pour être effectivement connecté avec le soleil. Voilà. Et donc, de la 1 à la 6, eh bien, là aussi, il y a une sous-division, hein, puisque de 1 à 6, on appelle ça un hexagramme, et de 1 à 6, eh bien, il y a deux trigrammes, c'est-à-dire trois chakras inférieurs et trois chakras supérieurs, entre guillemets, le septième n'étant pas véritablement un chakra en tant que tel. Enfin, c'est pas la même musique, on va dire. Et donc, il y a ce voile de l'oubli qui se situe donc en plein milieu donc de ce trigramme, de ce tétragramme, donc qui fabrique deux trigrammes. Le trigramme inférieur, chakra 1, 2 et 3, c'est tout ce qui va toucher la matière dans le sens digestion par exemple, c'est-à-dire que votre troisième chakra, c'est donc le plexus solaire, et donc derrière vous avez l'estomac, ensuite les intestins, et ensuite bah, les organes, on va dire, de sortie, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, je dirais, matériel, matériel, matériel. Hein, c'est un masculin, masculin, masculin. Et ensuite, le masculin, masculin, féminin, eh bien, ça va être le chakra 4, 5 et 6. Et donc, eux sont beaucoup plus dans l'élément, on va dire, air, hein, c'est-à-dire que vous avez derrière les poumons, hein, enfin, tout ce qui touche le côté aérien. Donc, si par exemple, on vous asphyxie, eh bien, tout simplement, ben, vous mourrez. Si par exemple, le cœur physique, qui lui, ben, suite à asphyxie, s'arrête, eh bien, la mécanique s'arrête et le cœur physique est situé entre le quatrième et cinquième chakra. Donc, on voit que dès qu'il y a une problématique, on va dire, d'oxygénation dans le trigramme supérieur, automatiquement, le corps va mourir à une vitesse grand V. Par contre, si il y a une non-alimentation, hein, c'est-à-dire vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, eh bien, vous pouvez quand même vivre très longtemps, voire devenir éternel, parce que en fait, ce n'est pas obligé de manger. Mais nous allons voir, parce que j'ai quand même lu ce soir en attendant les différentes questions, parce que bon, elles se recoupent forcément entre elles, et donc, bah, d'une certaine manière, je commence à répondre à d'autres questions qu'il y a derrière, hein, concernant l'alimentation, par exemple. Donc, l'alimentation, on va dire solide, et voire liquide, est nettement moins importante que l'alimentation, on va dire, aérienne. Hein? Et cette alimentation aérienne est bien sûr elle-même dépassée par une alimentation, on va dire, pranique, tout simplement. Hein? C'est-à-dire que quand nous respirons l'air, nous respirons aussi du prana. Et pour les gens qu'on appelle les respiriens, c'est-à-dire ceux qui ne boivent plus et ne mangent plus, eh bien en fait, vous faites une respiration pranique. Et cette respiration pranique, eh bien, commence effectivement à partir du septième chakra véritablement. Hein? Voilà pourquoi, quand par exemple vous êtes enrhumé, c'est la première zone qui est la plus sensible, c'est-à-dire dès que vous commencez à être suffisamment empoisonné, c'est-à-dire que le tas de fumier, entre guillemets, les odeurs du tas de fumier sont tellement nauséabondes qu'elles vous montent au nez, et ben, ça encrasse, on peut dire, au niveau supérieur. Donc, généralement, quand votre corps n'arrive pas à éliminer un certain nombre de toxines, eh bien, progressivement, on va dire, le tas de déchets prend de l'altitude. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir, je dirais, des évacuations qui va être différente. Mais je ne voudrais pas faire un cours là-dessus ce soir, mais sachez que quand vous commencez à avoir un rhume, hein, et le rhume c'est bien sûr au niveau des sinus, et le sinus c'est le joint qu'il y a globalement entre le sixième chakra et on va dire le septième. Le septième vous apporte d'une certaine manière ce qu'on va dire le prana directement, c'est-à-dire comme vous êtes connecté à votre soi supérieur, eh bien vous êtes alimenté par l'énergie pure, on va dire. Par contre, quand vous respirez, l'air passe dans les narines, va passer donc physiquement, si vous voulez, juste derrière entre les deux yeux. Et en fait, ce sinus, le prana, passe directement pour alimenter le sixième chakra, et donc alimenter toute la chaîne qu'il y a en dessous. Voilà pourquoi, quand nous avons un rhume, eh bien, on est très embêté, hein, et ça coule en permanence, parce que l'objectif, c'est bien sûr d'évacuer la merde que le corps ne peut plus évacuer. Donc ça veut dire que l'encrassement est à ce moment-là maximal. Donc c'est une alarme. Quand cette alarme est en route, bon c'est simple, hein, la solution est relativement simple. Vous arrêtez déjà de manger et vous mettez au lit. Et si vous avez donc généralement les gens prennent, vous savez, des grogs. Enfin bon, c'est pas obligé que ça soit de l'alcool, mais vous prenez quelque chose de chaud, vous mettez deux survêtements, trois survêtements, cinq couvertures, vous mettez au lit et vous prenez une suée d'enfer. Et vous allez voir que pendant cette période, ce moment, et ça peut durer, on va dire, la nuit, hein, en règle générale, eh bien, vous allez vous relever le lendemain matin nettement plus décrassé et ça sera fini. C'est-à-dire que vous coupez court pratiquement à toute maladie. Hein? Donc, mais c'est un cri d'alarme, hein, déjà, avoir un rhume. Voilà, donc ça c'était pour vous décrire un tout petit peu où se situe le voile de l'oubli et quel est l'objectif du voile de l'oubli. Donc pour répondre à la question de Nathalie sur pourquoi la création, pourquoi on va dire l'un s'emmerde-t-il, en fait il s'amuse. Parce que la création est amusement. La création, c'est on ne se prend pas au sérieux et on rigole parce que on expérimente nous-mêmes. On veut savoir en fait ce qu'on a dans les tripes, nos limites. Voilà, et donc, quelle que soit la dimension dans laquelle nous allons, obligatoirement, c'est nos limites. La seule chose, c'est que nous sommes tellement cristallisés, entre guillemets, en tant qu'êtres humains, pour devenir des pré-humains, hein, c'est-à-dire que dans notre évolution, eh bien, nous nous sommes pris au sérieux, et en nous prenant au sérieux, comme dirait l'autre, on a minéralisé lourdement au niveau du troisième chakra, hein, puisqu'on a tout conceptualisé, on a mis toutes les briques, et quand c'est pas logique, eh bien, c'est pas ceci, c'est pas cela, et on se pose des milliers de questions. Alors qu'en fait, quand on passe en quatrième dimension, donc théoriquement au niveau du quatrième chakra et donc de l'onde, du côté féminin, le féminin n'est pas cristallisé du tout. Et le féminin se fout si c'est logique ou pas. Elle, quand elle vit, et, enfin, quand elle sent quelque chose, elle le sent. Et elle n'a pas besoin de comprendre les choses, de connaître la logique, etc. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui dire, bon alors je veux savoir dans quelle vie antérieure on s'est fréquenté, pourquoi, quel est le but de l'objectif, tatati, tatata, vous pouvez prendre toutes les mensurations de la dame, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ça ne vous donnera pas de raison. L'essentiel est de vivre cette vibration. Et en vivant cette vibration, vous verrez que vous vous foutrez complètement, en fait, d'une certaine manière, vous apprendrez à aimer la personne qu'il y a en face, parce que il y a eu un petit électrochoc, un petit court-circuit quelque part, qui vous a fait du bien et qui fait que vous avez le palpitant qui palpite, quoi. Et ça suffit. Ça se suffit à soi-même. Hein, il n'y a pas besoin de savoir toutes les choses, donc pas besoin de sortir sur le CV, quoi. Voilà. Donc, pour répondre à Nathalie, eh bien, c'est simple. L'un. Eh bien, quand tu es dans l'éternel présent, eh ben, tu t'emmerdes et tu t'emmerdes tellement, tu dis, j'ai envie de m'amuser. Et puis, quelque part, pas de me foutre de ma gueule, mais de prendre ça à la rigolade et de voir en fait qui je suis. Et donc, c'est ça la question mystère qui se résume à trois mots en français, qui suis-je? Et ça a donc fabriqué des milliards de galaxies. Ça a fabriqué des milliards de possibilités de formes de vie, tout. Voilà. Donc, et personne n'a été capable de dire, de percer ce mystère. c'est ainsi. Donc, on continue, quoi. Alors, il y a une question maintenant, on va regarder l'ordre un petit peu des questions, hein, et il y a Christophe qui veut poser des questions sur les super-univers. Alors voilà ce qu'il écrit. Dans les articles sur le sujet, tu représentes un dessin avec sept sphères représentant sept super-univers autour d'une sphère représentant la source. Or, tu connais la géométrie sacrée, l'œuf de vie et la fleur de vie. Or, normalement, il y a six sphères autour de la première qui est aussi une création, ce qui fait bien sept super-univers, la source étant au centre de la sphère centrale, ou derrière, si on veut, car elle n'appartient pas aux univers manifestés. Pour moi, il est impossible qu'il y ait sept sphères autour de ça. D'une, ça ne colle pas. Peux-tu m'expliquer comment tu as procédé pour trouver ce résultat, ou n'ai-je pas bien compris de quoi tu parles ? Alors, la réponse est relativement simple. Comme d'habitude, quand tu représentes la fleur de vie, tu es en 2D, c'est-à-dire que tu es dans un mode plan. Vois les choses en volume, dans l'espace, et tu vas voir que c'est très différent. Si par exemple, tu prends un cube, et que tu mets une sphère à chaque sommet du cube, tu verras, donc tu auras 8 sphères qui seront autour d'une sphère de celle qui est au centre. Donc là, si on prend en 3D, on a déjà 8 sphères. Si tu prends en 2D, tu en as que 6. Tu dis, merde, alors comment qu'on joue là ? Donc la chose que je veux répondre à ça, c'est qu'il y a une infinité de possibilités de représentation des choses. Et quand nous représentons des sphères, et ça je crois que j'ai écrit un article là-dessus, hein, parce que par exemple, il y a un espèce de film d'ailleurs assez bien fait qui parle par exemple des tors, vous savez, des espèces d'anneaux concentriques d'énergie, ça c'est une vision féminine. C'est une vision magnétique de la création, qui est donc une vision sphérique, où l'énergie va circuler par comme une sorte de vortex, entre guillemets, ça vous l'avez pu le voir dans un article, je l'avais mis, et quand on regarde cette sphère ainsi que l'imbrication des différentes dimensions, vu de dessus, tu vois effectivement, par exemple, la fleur de vie. Donc la fleur de vie n'est qu'une représentation dimensionnelle de plusieurs dimensions, mais dans un mode plan. Donc il ne faut pas s'arrêter à simplement parce que tu connais ça et que un jour il y a Drunvalo qui a parlé de ça. C'est bien, c'est une vision parmi des tas d'autres. Déjà c'est cela. Ensuite, si tu lis plus en avant les choses concernant les super-univers, tu découvriras qu'en fait il y en a 12. Donc il y en a 7 au centre. Il y en a la source, ensuite il y a 7 super-univers, et dans le deuxième cercle atomique, il y en a 5. Alors là, je vais dire, je vais me dire sacré, 5, il ne comprend plus là. Donc, c'est pour ça que l'ensemble, si tu regardes, ça fait 12. C'est un petit peu comme le corps humain, où il y a, on dit 7 chakras, en fait, non. Il y en a 7, oui, bien sûr. Il y en a 6 qui appartiennent, on va dire, au soi, un petit soi inférieur, et il y en a un qui appartient au soi supérieur, mais quand on regarde bien, le soi supérieur, lui, il y en a un qui est accroché à l'humain, puis les 5 autres qui sont tout seuls. Donc c'est la même structure. Quand nous parlons des super-univers et que nous parlons des chakras, il y a une relation directe dans la construction, puisque c'est la même construction. Dites-vous bien que à chaque fois que l'un a fait quelque chose, il s'est toujours appuyé sur la même logique, afin qu'il y ait une cohérence. Comme dirait l'autre, c'est pour éviter les bugs. Donc, à chaque fois, il est parti sur une base de 2, et puis ensuite, ça a fait du 6, du 12, et on est passé donc à du 24, mais sachant qu'il y a un 18 intermédiaire. Donc tout ça, c'est un ensemble, et les 24 dimensions, pour répondre à une autre question qui est un petit peu plus loin, d'ailleurs c'est celle de Nora, y a-t-il une autre dimension après la 24e ? Les 24 dimensions que je nomme sont simplement les dimensions entre nous, c'est-à-dire notre corps physique, matière, 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 et le centre de notre galaxie. C'est étagé sur 24 épaisseurs, on va dire. Donc il y a un certain nombre de couches qui sont regroupées ensemble, avec des habitants, on va dire, différents. Donc dans la première couche la plus proche, bien sûr, de la source, de la source d'abord de notre galaxie, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le grand soi, que j'ai divisé d'ailleurs en deux sous-parties. Il y avait donc le soi essence, c'est-à-dire le féminin, 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 si on voulait être plus précis. précis. Donc, ce qui va entre la 18e et la 24e. Ensuite, il y a le soi, le grand soi énergie qui va donc de la 13e à la 18e. Et ensuite, on va taper dans le petit soi, hein, qui lui, comme par hasard, a une structure 7-5. C'est-à-dire où il va y avoir de 1 à 7, eh bien, ça va être le soi, on va dire, c'est l'humain, quoi. C'est-à-dire le véhicule d'incarnation connecté au petit soi supérieur qui lui en fait dans la structure est basé entre 7 et 12 mais qui dimensionnellement en fait à partir de la 8e dimension va de 8 à 12, donc il y a bien 5 dimensions qui ne sont pas, on va dire d'une certaine manière, matérialisées à notre échelle. Et elles sont matérialisées mais au niveau subatomique en fait. Puisque quand nous allons vers la source, nous allons vers le centre de nos atomes. Hein, nous n'allons pas vers l'extérieur. Mais bon, c'est encore toute une notion à voir, tout ça. Alors, donc la réponse à Christophe, bah c'est simple, c'est pas parce que tu connais un truc que ça doit rentrer dedans obligatoirement. Ce n'est qu'une vision limitée des choses, et on peut s'amuser donc à comment dire... D'ailleurs, si par exemple, on parle souvent du pentagramme, hein, c'est-à-dire de l'étoile à 5 branches, eh bien cette étoile à 5 branches, si tu regardes, c'est le second cercle atomique, donc avec les 5 atomes, avec les 5 super-univers, mais aussi les 5 chakras qui correspondent à notre soi supérieur. Et donc, quelque part, on sait très bien que le processus de l'ascension est bien de passer dans la 4e dimension et devenir un humain. Et si cet humain, on le représente par un pentacle, c'est parce qu'en fait, il a dépassé le voile de l'oubli et qu'il a donc fait le contact, entre guillemets, avec ses chakras 8 à 12. Et on peut interpréter énormément de choses d'une manière relativement simple. C'est que de la géométrie, c'est simple. C'est toujours très 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 simple. Hein. Il n'y a que le mental, l'ego qui veut compliquer, comme on dit, pour se la péter un peu, quoi. Hein. Donc il existe bien sûr d'autres dimensions après la 24e, c'est-à-dire que dès que tu vas au stade au-delà, on va dire, de la source de notre galaxie qui est donc Alcyone, eh bien forcément il y a d'autres structures. Hein, là je vous ai détaillé simplement ce qui se passe entre, on va dire, le tronc et la feuille. Mais le tronc, comme dirait l'autre, qui est donc la source, au niveau de la galaxie, il faut savoir que ce tronc, il est un arbre dans une forêt immense qui elle-même est sur une autre sphère, je dirais, beaucoup plus importante et que je nomme la source dans les super-univers. Hein, regardez bien au niveau du texte que j'ai écrit. Alors, c'est pas moi qui ai dégagé tout ça, c'est ce qui vient d'informations qui a été, donc, on va dire, canalisée. Et ça s'appelle l'enseignement de Soria, tout simplement. Alors, le but de l'incarnation. Donc, on suit toujours une question de Christophe. Quels sont les avantages à être incarné à ce stade d'humain, animal, dans la 3D ? Je perçois ce passage comme une étape pénible mais nécessaire à la construction d'une conscience individuelle, comme si on était obligé d'expérimenter pour être conscient de l'harmonie. Suis-je dans le vrai ? Oui. C'est-à-dire que, effectivement, une entité en tant que telle, c'est-à-dire une feuille, si vous voulez, c'est comme un corps humain. Il y a des saisons. Donc, sur le même, pas bourgeon, mais sur la même brindille, hein, de l'arbre, eh bien, il peut y avoir, bien sûr, plein de feuilles qui peuvent, disons, naître, mourir, renaître, mourir, etc. Donc, d'une certaine manière, on est complètement dépendant des saisons que nous appelons une vie, hein, une vie humaine. Par contre, quand nous passons le stade de l'ascension, eh bien, c'est comme si la conscience de la feuille s'accrochait littéralement à la brindille, qui fait qu'il y ait feuille ou pas, à la conscience d'elle-même. Donc on verra que quand on arrive véritablement en 7e dimension, c'est-à-dire qu'on n'est plus raccroché, je dirais, au véhicule humain d'une certaine manière, puisque là nous allons passer, bien sûr, nous sommes dans la 4e pratiquement, on a un pied dedans, mais quand on aura à véritablement dépasser ce voile de l'oubli, c'est-à-dire que notre cœur fonctionnera, je dirais, non pas parfaitement avec notre mental, mais l'inverse, que notre mental suivra totalement ce que notre cœur nous dit, eh bien, à ce moment-là, on passera dans le moteur du ciel, qui est la 5D, 6D, qui est le stade, on va dire, d'expérimentation finale par rapport à l'incarnation dans un corps physique. Une fois qu'on passera en 7D, 8D, là, vous n'aurez plus besoin d'être une feuille pour savoir qui vous êtes, enfin qui vous êtes dans votre essence. Et là, à partir de la 7D, vous pourrez faire apparaître ou disparaître la feuille selon la forme que vous voulez, pour la durée que vous voulez. Hein? Donc ça, nous allons commencer à l'apprendre en 5D. Hein? C'est-à-dire que, grosso modo, si je reprends toujours le problème de la feuille de l'arbre, eh bien actuellement, le passage de la 4D à la 5D qu'on fera quand on ascensionnera définitivement, c'est comme si on revenait directement dans la nervure de la feuille. C'est-à-dire qu'on est la queue de la feuille, et non pas, vous savez, toutes les petites cellules qu'il y a autour qui fabriquent la feuille elle-même. Mais vraiment, j'ai les mots qui me fuient, incroyable. Mais bon, c'est la queue de la feuille, quoi. Donc quand on est en 5D, 6D, on est la queue de la feuille, et ensuite on pourra fabriquer, je dirais d'une certaine manière, mais quand même avec des contraintes, la forme de la feuille selon notre véritable nature. Mais quand on est au-delà de la queue de la feuille, eh bien, on n'a plus besoin, à ce moment-là, d'avoir une feuille. C'est-à-dire que même quand ça sera la saison d'hiver, on existera quand même et on pourra prendre la forme que l'on veut. Hein? Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je dis là. Donc, effectivement, c'est une expérimentation. Donc, on vient bien du monde minéral, puisque, toujours par rapport à l'arbre, la sève qui monte, c'est des minéraux qui montent jusqu'à la feuille, grâce à la force du soleil. Et cette force du soleil, bon, on appelle ça grosso modo le spirituel. Donc le soleil, papa soleil, il vous dit coucou et mon grand vient jusque là. Et donc on part bien du minéral, et de ces petits minéraux, eh bien on va les transformer en végétaux, c'est-à-dire à la feuille. Et après, eh bien on prend conscience qu'on peut bouger, et bouger d'une certaine manière par rapport à cette feuille. On est cette feuille, mais cette feuille bouge dans le vent. Et le vent, c'est l'élément air, et donc c'est le mental. Et donc vous pouvez, et c'est ça la différence, c'est que vous prenez conscience que vous êtes une feuille dans le vent. Et quand vous prenez conscience que vous êtes une feuille dans le vent, eh bien vous découvrirez, une fois que le voile de l'oubli est passé, eh bien vous découvrirez que vous en foutez complètement de mourir ou de naître, parce que vous savez que de toute façon c'est un cycle, et ce cycle se répétera autant de fois que nécessaire pour que vous preniez conscience de la chose. Et une fois que vous passerez en 5D, 6D, ben vous verrez que la notion de saison va s'estomper totalement. Il n'y aura plus d'été, d'automne, d'hiver, etc. Ce cycle va, je dirais, ne plus être en action pour nous, puisque quand nous passerons en 5D, et donc la planète aussi, eh bien, il n'y aura plus de saison. Donc il n'y aura plus d'automne, il n'y aura plus d'été, il n'y aura plus de printemps. C'est-à-dire que ça sera le printemps permanent, mais aussi l'automne et l'hiver pour tout le monde. Sachant que ne mourront que les gens qui disent « Bon, bah, moi ça suffit, maintenant on passe au stade suivant. Hein? » Et les naissances, ça sera la même chose. Il faudra qu'une feuille arrête l'expérimentation dans la matière pour qu'une conscience puisse s'incarner dans une future feuille. Donc on ne sera pas dans le stade actuel où on pond des gamins. C'est comme si un arbre venait à croître, je dirais, d'une manière infinie, de surpopulation totale, quoi. Donc forcément, arrivé à un moment, il va y avoir pénurie, d'une certaine manière, puisque chaque fois que l'arbre prend dans le sol, il appauvrit le sol. Hein. Après, c'est une histoire de rapport. Hein. Donc, la Terre n'a jamais été prévue, bien sûr, pour accueillir 7 milliards d'individus. Alors, bien sûr, on peut toujours dire qu'on peut donner à bouffer à tout le monde, oui. Mais ça durera un certain temps. Mais pas éternellement. Hein, puisqu'il y a effectivement une limite. Hein, comme dans un réservoir d'essence pour une voiture. De l'essence, il y en a des quantités infinies. Mais le réservoir, lui, n'a qu'une quantité finie. Hein, donc. Votre vie est de même nature. Hein, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, je ne vais pas dire que c'est vous qui décidez de votre vie, mais presque, puisque théoriquement, on a un plein. Mais à la vitesse où on gaspille, généralement, on arrive rarement, je dirais, au bout du parcours, on arrive rarement à vivre ce que l'on devrait vivre. Normalement, aujourd'hui, on a un plein pour vivre 120 ans. 120 ans, et je dirais, à 121 ans, vous avez toujours le sourire aux dents et vous regardez toujours les jupettes. C'est-à-dire qu'en pleine forme totale, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc même ceux qui sont arrivés à 120 ans aujourd'hui arrivent dans des états quasiment de momie, quoi. Hein. Donc ils ne pètent pas la forme. Hein? Donc, quelque part, quand les gens disent, ah oui, mais moi, je bois de l'alcool, c'est bon, je mange du steak, c'est super bon, la viande grillée, c'est super. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ben, dites-vous bien que votre corps, pour compenser toutes ces dépenses, toutes ces fuites énergétiques, ben, va puiser effectivement dans le réservoir. Donc, c'est pas parce que au bout de 20 ans de cigarette, vous décidez d'arrêter de la cigarette que vous allez récupérer toute l'essence, tout le carburant que vous avez perdu. Non, vous allez économiser, c'est-à-dire vous allez perdre moins sur ce qui reste. Mais vous n'allez pas récupérer. Vous n'allez pas récupérer l'énergie que vous avez perdue. Enfin, l'énergie. L'énergie est illimitée, l'essence est illimitée, simplement on peut pas refaire le plein comme on veut. Hein. Donc, c'est comme pour la voiture. Donc, l'essence est limitée, mais l'oxygène pour faire brûler l'essence ne l'est pas. Donc, vous pouvez vous dire, oui, je respire, je vais respirer ceci, ceci, cela, je vais faire ci, ok, d'accord. Vous pouvez boucher tous les trous, mais vous ne réparerez pas la caisse complètement, et surtout, vous ne referez pas le plein. Ça, faut abandonner cette idée d'une certaine manière aujourd'hui, même si, quand on dit en 4D, on peut reprendre la santé. Alors, bien sûr, les gens parlent toujours, puisqu'on verra qu'il y a quand même beaucoup de questions médicales ce soir, ils disent, ah ben, je suis en bonne santé, en pensant, je ne suis pas malade. Je peux vous dire que, grosso modo, la quasi-majorité des humains sont malades. Enfin, sont malades, sont en mauvaise santé, sans pour cela être malades. Mais sont en mauvaise santé, sont pas en bonne santé. Parce que s'ils étaient véritablement en bonne santé, ben, ils pèteraient la forme à fond, hein, et ils auraient la joie, comme dirait l'autre. Donc, ce qui, c'est pas le cas. Si vous n'êtes pas guiri et si vous n'êtes pas joyeux, eh ben, c'est que ben, vous êtes en déficit, tout simplement. La joie ne peut s'exprimer que quand vous êtes en bénéfice. Donc, s'il y a du bénéfice, ben, vous en filez aux autres, et les autres, comme ils sont en pénurie, ben, ils viennent vous voir et ils vous trouvent vachement sympa, et puis ils aiment bien être en votre compagnie, parce qu'en fait, ben, ils s'alimentent. Hein? Donc, au lieu de faire jusqu'à maintenant comme ça se fait en 3D, où les gens se bouffent l'énergie les uns les autres, c'est-à-dire ils sont tous en déficit d'essence, mais ils essayent quand même de piquer l'essence qu'il y a dans les réservoirs d'à côté. Mais quand vous êtes en 4D, comme dirait l'autre, vous avez un trop-plein par rapport à votre besoin véritable. Donc le résultat, bah, ce besoin, cette suroxygénation, comme on pourrait dire, eh bien, on en fait bénéficier les autres. Mais ça ne rajoutera pas de l'essence dans notre réservoir. Hein? Donc, comme dirait l'autre, on a un turbo, quoi. Hein? Quand on est en bénéfice d'énergie, on a un turbo. Mais ça ne rajoute pas d'essence. C'est-à-dire qu'on exploite mieux l'essence que l'on consomme, mais ça ne rajoute pas de l'essence dans le réservoir. Donc, normalement, on est prévu pour 120 ans. Et le truc, c'est que pour l'instant, il y a très peu de personnes qui arrivent à 120 ans, nickel chrome, avec une santé parfaite. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au but de l'incarnation. Donc, Christophe a parlé déjà de ça. Donc, je vais parler maintenant de la question de Kazuo. Une âme peut-elle décider de faire l'expérience d'une immortalité physique lors de son incarnation sur Terre, voire comte de Saint-Germain? Si c'était possible, ce qui semble être le cas, puisque notre être divin décide de lui-même de faire l'expérience de la séparation, la dualité, de la maladie, la mort, etc., n'est-ce pas contradictoire si l'on considère que ce choix de vie correspondrait plus à un choix de l'ego de ne pas vouloir mourir alors que l'âme est censée être pure? Alors là, il y a un peu de mélange de tout, mais l'idée générale, c'est que, effectivement, si vous appelez le comte de Saint-Germain, enfin bon, l'étiquette qu'on lui a refilée, c'est que vous êtes déjà un super méga générateur d'énergie, c'est-à-dire que vous êtes super branché. Alors déjà, là, vous partez déjà avec un plein, mais comme dirait l'autre, comme le moteur est très puissant, vous savez, tout est toujours en relation. Si vous avez une voiture qui est 5 chevaux, bah, vous avez peut-être un réservoir qui fait 40 litres ou 45 litres. Mais si on vous met un gros moteur qui fait, je sais pas moi, 50 chevaux, au lieu des 5, c'est sûr qu'on ne va pas vous mettre un réservoir de 45 litres. Vous aurez peut-être un réservoir de 200 litres, ou, enfin bref, le réservoir va être proportionnel à, comme dirait l'autre, à combien biberonne le moteur. Et donc, déjà, il y a ça. Donc, quand vous savez un réservoir de 250 litres, c'est sûr que vous pouvez vivre plus longtemps, à la seule condition, bien sûr, c'est que le moteur, le gros moteur, bah, vous le fassiez tourner au ralenti. Donc, si vous êtes constamment au ralenti, c'est-à-dire vous êtes en première lente et vous appuyez pas sur l'accélérateur, je peux vous dire que vous allez avoir une longueur de vie qui va être exceptionnelle. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour le Comte de Saint-Germain, c'est-à-dire que c'est une très grosse cylindrée qui est venue et qui a roulé à minima, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui n'a pas forcé. Hein. Donc, comme il n'a pas forcé, eh bien, ça a duré longtemps et donc il a pu, d'une certaine manière, vivre plusieurs vies humaines parce qu'il avait les capacités. Alors, croire que on peut venir sur Terre et vivre 3000 ans, ça c'est nada. Pourquoi? Parce que la Terre est entourée, on va dire, d'un astral qui est donc un truc qui est complètement pollué. Donc vous imaginez bien que si l'air est pollué, le moteur va s'encrasser, les filtres vont s'encrasser. Donc quelle que soit la quantité d'essence que vous avez, la cylindrée que vous allez avoir, vous savez pertinemment que les filtres vont s'encrasser. Et ça, vous ne pourrez pas nettoyer vos filtres et vous ne pouvez pas changer vos filtres. Puisque ça voudrait dire qu'il faudrait mourir pour revenir. Hein. C'est avoir des pièces neuves. Et les pièces neuves, on n'en a pas. On n'a pas de pièces neuves. Hein. C'est que des pièces recyclées qu'on a en ce moment. Hein. Je vous signale, on n'est que du recyclage permanent. Donc, globalement, si nos ancêtres ont fait des saloperies au niveau de notre code génétique, eh bien, comme dirait l'autre, bah, les suspensions qu'ils ont cassées, bah, on en hérite. Hein. Donc, on croit que notre voiture est neuve. Quand on regarde un petit bout de chou, on dit, oh, tout ça, c'est neuf. Non, c'est un recyclé neuf. Hein, c'est-à-dire, on a repris les matériaux, on a refondu tout, on a mis, mais la qualité du matériau lui-même est toujours identique, c'est-à-dire que toutes les erreurs, toutes les anomalies génétiques sont toujours là. Donc, il est normal que plus nous avançons, plus d'une certaine manière, il y a un espèce d'équilibre qui est en train de se faire. Hein. Donc, dans les pays dits civilisés, eh bien, on allonge la durée de vie. Par des méthodes, on va dire, artificielles, mais aussi par une prise de conscience de ce qui bouche les filtres. Donc ça veut dire qu'il y a une hygiène de vie je dirais, plus saine, plus l'hygiène de vie va être meilleure, et moins ça va s'encrasser, et donc plus vous allez vivre longtemps. Par contre, bien dans les pays dits, moins favorisés, s'ils sont pas au courant de ce que c'est un microbe, un virus et qu'ils se lavent pas les mains et qu'ils pissent, on va dire, juste à côté de la source, c'est évident que, ils vont avoir plus de soucis pour survivre. Bon, maintenant, globalement, je pense que la grande majorité des humains sont à peu près au jus, qu'il y a quand même une hygiène minimale, mais quand vous regardez ce qui se passe dans les pays sous-développés et la flotte qu'ils boivent, elle n'est même pas transparente dans beaucoup de cas. Vous buvez de l'eau qui est moirâtre, et vous n'avez aucune idée d'où ça vient. Quand vous buvez de l'eau de la rivière, vous ne savez pas tout ce qu'il y a eu dedans. Imaginez quand vous êtes en Inde et vous pompez l'eau de la rivière. C'est démentiel. Hein, donc la durée de vie aujourd'hui augmente par une meilleure connaissance, il y a une moindre ignorance, on va dire, de la pollution qu'il y a autour de nous, des effets que ça a sur nous. Mais de toute façon, que j'habite ici, je dirais en France, dans un pays relativement avancé, on va dire, à ce niveau-là, m'empêchera pas de respirer toutes les saloperies envoyées par Tchernobyl, Fukushima et compagnie. Ni tous les feux de forêt et toutes les saloperies qui ont été disséminées dans l'air et dans l'eau, etc. Donc, quelque part, malgré toute la notion qu'on peut avoir, je dirais, de santé parfaite, nous ne sommes pas dans un monde parfait dans le sens pollution. C'est-à-dire pollution, quand on parle de pollution, ça veut dire que c'est une réaction chimique, hein, grosso modo, négative à la vie. Donc, concrètement parlant, quand la pollution, c'est la mort, hein, c'est un degré de mort en fait. Hein, donc, comment vous voulez dire je vais avoir la santé parfaite et devenir éternel alors que vous vivez dans un milieu qui pue la mort à plein nez à pratiquement tous les niveaux, quoi. Donc, il y a forcément de l'usure. Hein, donc, on peut, je dirais, ralentir l'usure, ralentir, on va dire, la consommation du bébé, ralentir toutes les fuites d'énergie, on peut ralentir tout, mais quelque part, il y a aussi une autre chose à voir, c'est ça sert à quoi d'être en santé parfaite si votre vie devient un enfer parce que vous voulez avoir la santé parfaite? Je connais beaucoup de gens qui ont fait des régimes, on va dire, très, très lourds. Et en fait, ils ont tellement peur de mourir qu'en fait, ils sont déjà morts. Donc, leur vie est un enfer. Et ils font mener d'ailleurs un enfer à tous les gens qui les entourent. Donc, c'est pour ça que je souris quand les gens me disent, oui, mais moi, je mange bio et ceci. Et si c'est pas bio, et si c'est... Et quand vous regardez, ça les empêche pas de sortir la cigarette à la fin du repas, quoi. Donc, c'est un ensemble de paramètres et je pense que c'est à chacun de décider de ce qui est le mieux pour lui par rapport à ce qu'il est maintenant. Moi, quand j'ai des bas de vagues, comme on dirait, bah, je peux vous dire que non, j'irai pas acheter un steak, non, ça c'est sûr. Mais quand j'ai des bas de vagues, je vais peut-être consommer un peu plus de chocolat que d'habitude. Je sais, mais j'ai un choix à faire. Soit je mange du chocolat ou des choses qui ne sont pas diététiquement géniales pour rester, on va dire, mince et en bonne santé, ou carrément dire bah non, non, je ne vais pas bouffer du chocolat parce que ceci, et puis émotionnellement, m'arner tellement fort qu'en fait, je perds des années de vie mentale, on va dire. Hein. C'est-à-dire que votre vibration descend si bas que en fait, ça n'en valait pas le coup. Donc il y a des fois, il faut mieux savoir prendre un peu de poison afin de ne pas baisser sa vibration. Enfin, afin qu'elle ne tombe pas trop bas, on va dire. Donc moi, quand j'ai des coups de mou, quand j'ai bon, ok, je fais quelques excès, on va dire, hein, puisque bon, émotionnellement, on sait que ça se dirige tout de suite direction le frigo. Donc je vais direction le frigo, d'accord. Mais je suis conscient que je préfère temporellement, on va dire, faire un abus alimentaire, sachant que mon corps saura y réagir, parce qu'en fait, quand j'ai un problème émotionnel, c'est que j'ai un problème avec mon âme. Et donc, je m'appuie sur la compréhension et la bienveillance de mon corps d'encaisser ce que je ne peux pas encaisser au niveau de l'âme. Mais si j'essaye simplement de conserver un niveau, je dirais, en disant non, non, je ne dois pas manger de chocolat, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, non, c'est pas bon pour mon corps physique, alors que mon corps émotionnel, c'est-à-dire la relation que j'ai avec mon âme, devient infernale, j'ai un choix à faire. Donc mon choix est tout de suite fait. Mon corps, c'est comme une voiture, il doit encaisser les nids de poules, il doit encaisser les imperfections de la route, et à chaque fois que je vais bouffer du talus, comme dirait l'autre, ou que je me bouffe du trou, hein, d'un point de vue émotionnel, on va dire, eh bien, je compte sur ma voiture pour compenser ces dérives, entre guillemets, mais c'est nécessaire. Hein, c'est un couple, entre guillemets. Hein. Donc, c'est le moteur de l'humain qui s'appuie sur le moteur de la Terre. Donc, je mets le moteur de l'humain d'abord en avant, et ensuite le moteur de la Terre. Mais quand le moteur de l'humain fonctionne bien, je chouchoute, je veux dire, je fais très très attention au moteur de la Terre. Oui, parce que c'est un temple. Mais le temple, il se salit par la pollution, c'est normal. Alors, de temps en temps, s'il y a une messe, comme on dit, ça va foutre le bouzou, il y aura plus de bordel et de poussière. On est d'accord? Donc, à chaque fois que j'ai ouvert le frigo, c'est comme si il y avait du monde qui rentrait dans le temple et ça fait beaucoup de gens. Donc, il faudra ensuite récupérer, enfin, nettoyer les papiers gras, les trucs, les machins, enfin, tout ce qui aura été apporté par la foule. Mais ça fait partie de la, je dirais, de la fonction du corps humain. Hein, c'est un temple, il est là pour accueillir. Alors, donc là, pour revenir à la question de Kazuo, nous ne pouvons pas vivre éternellement dans l'état actuel, ça c'est évident, mais quand nous serons en 5D, il n'y aura plus de pollution. Hein, et ça, vous pouvez déjà le voir dans beaucoup de canalisations qui ont été faites depuis des années. Faut pas qu'on se soucie pour nos enfants, tout ça c'est de la fadaise du mental ego. Parce que dans la réalité, comme il y aura un changement dimensionnel, eh bien nous allons être en fait sur une nouvelle terre. C'est-à-dire que nous allons translater, nous allons passer à une autre vibration, et donc en fait à un autre monde, qui ne sera pas ce monde. Donc tout ce qui se passera en ce monde sera nettoyé comme il est fait actuellement sur d'autres planètes comme sur Mars, etc. où on dit que la vie est impossible, oui, parce qu'elle est en plein recyclage. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tous ces habitants sont déjà en 5D et eux, ils ne sont pas du tout affectés par ça. Parce qu'eux, ils voient totalement autre chose. Hein, donc, de ce côté-là, moi, je ne me soucie pas pour Fukushima, Tchernobyl et toutes les saloperies qu'il puisse y avoir aujourd'hui sur la Terre. Parce que plus tôt, nous passerons en 5D et plus tôt, on quittera la poubelle, on va dire. Et la poubelle se fera nettoyer. Et c'est pour ça que Urantia Gaia commence à avoir une relative impatience, entre guillemets, à, comme dirait l'autre, à changer de benne. Hein, parce que c'est comme les bennes à déchets, quand elle est pleine. Hein. Et ben elle a envie d'une nouvelle benne, et cette nouvelle benne s'appelle la 5D. Donc elle aimerait bien faire emporter, on fait dire, cette benne de 3D, 4D, qui commence à lui peser énormément, quoi. Donc l'objectif, et ça on le verra dans une question que j'ai lue là, que de toute façon, nous ne sommes pas sur l'amélioration d'un existant. Le but, ce n'est pas de dépolluer la benne dans laquelle on est, parce qu'on ira dans une nouvelle benne. Alors beaucoup de gens iront dans un nouveau corps. Hein, donc tout, parce que quand on dit ah oui mais je vais emmener avec mon corps, vous savez quand on prend, je dirais. Un objet qui a été complètement pollué dans la benne de 3D, 4D, et qu'on le met dans une benne toute neuve, 5D, 6D, ça ne va pas jouer vraiment. Hein, vous pouvez toujours décrasser un peu l'extérieur, hein, dégraisser le truc, etc. Mais la nature du matériau lui-même sera tellement imbibée d'imperfections que, en fait, dans la réalité, bon, je sais que c'est dur à dire pour les gens qui sont en 3D. Le passage qu'on dit la résurrection, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est un changement de corps, point barre. Alors, tant qu'on croit que notre vie, c'est notre corps, c'est sûr que c'est pas une nouvelle qui est, je dirais, jouissive. Mais quand vous aurez intégré la 4D, vous direz, mais c'est une voiture, ok, mais là, on va m'en livrer une nouvelle. Et c'est même moi qui va la choisir, d'une certaine manière. Hein, donc, qui refuserait d'avoir une voiture neuve et de laisser son épave? Donc, l'épave, bon, on l'entretient, nickel chrome, tout comme on peut, je dirais, tant qu'on ne nous livre pas la voiture neuve, c'est évident. Mais dès que la voiture neuve va se pointer, je peux vous dire que ça ne va pas traîner longtemps pour changer de voiture et faire un changement de propriétaire. Hein. Enfin. Voilà. Alors, donc quand Kazuo parle que l'âme est censée être pure, ça c'est du truc religieux. Elle est censée être pure, mais elle ne peut pas l'être. Hein. L'âme, c'est notre soi donc supérieur, on va dire, et qui a été donc en contact hein, via le septième chakra au soi inférieur. Et donc le soi inférieur, c'est la poubelle par définition, elle ne peut pas être pure. Elle ne peut pas, parce que c'est comme si quelqu'un disait « je suis innocent depuis que je suis né ». Ça n'existe pas. Même quand quelqu'un naît, il n'est surtout pas innocent. Et ça, c'est aussi un truc qui peut faire sourire, mais... j'ai eu assez de frangines, entre guillemets, dont il a fallu que je m'occupe, et ça très tôt, eh bien, j'ai découvert qu'ils n'étaient absolument pas innocents. Et rappelez-vous que quand un enfant est né, il est toujours en contact avec l'autre côté, lui. Il est toujours en contact avec son soi supérieur. Donc, en fait, il peut vous niquer autant qu'il veut. Pourquoi ? Il va sourire. Il va vous faire chier. Il va tester vos limites. Il va se dire, mais où il en est, là, celui-là ou celle-là ? Où elle en est, là ? Tiens, je vais chialer, puis je vais voir... combien de temps ils vont mettre pour venir. Puis je vais les emmerder. Puis de toute façon, si vraiment ils m'emmerdent, je vais pleurer toutes les nuits. Je vais leur casser les couilles, moi. Il n'y a pas de problème. Et donc, ils s'installent. Et ils découvrent, ils veulent tester. Et donc, c'est pour ça que dans un enfant en bas âge, même quand il n'a même pas de dents encore, eh bien, c'est tout de suite qu'il faut donner le ton. Et donner le ton, c'est simple. Ils n'ont pas de mental en tant que tel. Hein, parce qu'ils sont toujours dans l'essence, dans la vibration, puisqu'ils sont encore en contact. Eh bien, Faites-leur des papouilles d'amour, venez les caresser, venez faire de la télépathie avec eux, faites tout ce que vous voulez quand ils sont calmes et en paix. Et puis quand ils chialent, mais que vous vous sentez que c'est pas parce qu'ils ont les fesses mouillées ou parce qu'ils ont faim, vous savez que c'est un petit truc de caractère et qu'on vous teste, vous y allez pas. Vous inquiétez pas, au bout de la troisième tentative, ils vont se dire, non, à chaque fois que j'essaye de faire ma tête de cochon et de leur montrer qui je suis, ils viennent pas. Et ils me donnent pas de l'amour, de l'attention et tout ça. Je peux vous dire qu'ils changent de registre tout de suite. Et ils abandonnent cette voie d'exploration. Le résultat, eh bien, si vous êtes gentil, entre guillemets, quand votre enfant est en paix, eh bien, je peux vous dire que vous avez des enfants qui vont devenir, qui vont être des lampadaires et qui vont être en paix. Et donc, moi, mes enfants, ils n'ont jamais pleuré la nuit, ils m'ont jamais emmerdé, jamais. Pourquoi? Parce que ça, je l'avais compris très tôt, dès le début. Mais quand ils ont le cul mouillé, qu'ils ont faim, il faut savoir faire la différence. Hein. Quand ils pleurent, c'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas besoin d'être une femme et d'avoir porté un enfant pour savoir quand un enfant il a besoin d'être changé ou quand il a faim. Hein, donc, ma femme, elle l'a découvert, puisque, bon, comme un premier enfant, ça n'avait rien du tout de tout ça, elle a découvert que le fameux lien maternel, il était paternel. Hein, et je la devançais largement sur toutes les coutures. Et ça donne des enfants calmes. Et joyeux et qui pètent la joie, quoi. Parce que quand ils ont véritablement besoin, vous êtes là. Et quand ils n'ont pas besoin, vous êtes là aussi. Mais vous leur donnez vraiment. Donc, leur tête, le truc, repousser les limites, ils savent tout de suite qu'ils ne vont pas pouvoir vous berner. Hein. Et une fois que ça s'est fait, c'est dans les premières semaines, mois, on va dire. Après, la musique, c'est de l'enfance de là. Mais bon. Voilà, bon ça c'était donc une petite aparté sur les enfants et sur comment avoir des enfants qui vous coincent pas les pieds en fait. Hein? Qui vont vous donner le meilleur sans vous donner le pire. Voilà. Alors, donc l'âme n'est pas pure, hein, je répète. Nora, concernant le voile de l'oubli, est-ce possible que ce soit voulu que le voile de l'oubli reste caché le plus longtemps possible à certaines personnes et pourquoi? Écoutez, c'est simple. Chaque personne est l'incarnation, hein, d'une entité, on est bien d'accord. Et donc, à chaque fois que votre étincelle d'esprit, une partie de vos étincelles d'esprit vient s'incarner, c'est par rapport à un programme. Et donc, le voile de l'oubli sera aussi épais que nécessaire. Voilà, donc pour certains, le voile de l'oubli sera vraiment une grosse couche, puis alors d'autres, ça sera beaucoup plus faible. Tout dépend de ce que votre contrat de vie a prévu. Voilà. Ce n'est pas une injustice, c'est que ça va avec le contrat. Si vous venez pour être, je dirais, le trisomique de base, vous êtes le trisomique de base. Mais si vous venez pour être le génie du siècle, vous serez le génie du siècle. Donc le voile de l'oubli est directement proportionnel, à votre contrat de vie. Alors, généralement, là je répète encore, ça c'est dans les conditions optimales. Par contre, comme on carbure, comme dirait l'autre, on a une carburation complètement désharmonisée, comme dirait l'autre, le moteur s'encrasse encore plus vite et les filtres aussi. Donc, ce qui veut dire que même si un voile de l'oubli est prévu d'être pas trop épais, on va l'épaissir naturellement. C'est-à-dire que si on n'a pas des conditions saines de vie émotionnelle, de vie alimentaire, de vie énergétique, enfin tout ce que vous voulez, de vie mentale, nous allons épaissir forcément ce filtre, ce voile de l'oubli. Hein. Donc, nous rajoutons une couche. Voilà. Donc si déjà, vous savez, quand les gens disent « Ah, je veux nettoyer mon karma, etc. », en fait, vous ne faites qu'ôter la crasse qu'il y a sur la couche. Mais d'une certaine manière, vous n'arriverez pas à percer le voile de l'oubli plus que ce qui a été prévu. Mais par contre, il peut effectivement avoir des portes de sortie, hein, des passages secrets. Parce que si effectivement vous avez suffisamment décrassé, vous pouvez voir que dans ce voile de l'oubli, il y a des portes. Et vous pouvez, bien sûr, trouver une porte. Ça existe. Vous savez, c'est un petit peu comme en informatique, où les informaticiens, bah, quand ils font un programme, eh bien, sur un pixel ou deux, ils font un lien. Donc vous ne voyez pas à l'écran. Mais quand vous savez que vous avez, vous cliquez à cet endroit-là bien précis, bien vous aurez une page qui viendra s'ouvrir. Alors en anglais, c'est bon, de toute façon, ils appellent ça l'œuf de Pâques. Donc derrière tout programme, en fait, quelque part, il y a un œuf de Pâques. Mais les gens ne le savent pas. Et si vous savez, vous découvrez des trucs incroyables. C'est caché, c'est planqué. Et eh bien, c'est la même chose. Au niveau du voile de l'oubli, il y a quelques passages. Il y a une porosité, on va dire, à certains endroits. Et vous pouvez effectivement, si vous êtes assez curieux et assez sensible, détecter où se trouve cette anomalie et d'en profiter pour vous connecter de l'autre côté, quoi. C'est clair. Alors, une question de Florence, si je repasse par ce voile de l'oubli, sera-t-il moins compact par la suite? Et qu'est-ce qui fait que tout à coup, nous nous éveillons? Est-ce que c'est intéressant? Alors, voilà, donc là, je viens de répondre à la question de Florence, c'est-à-dire que tu peux, dans une vie antérieure, avoir un voile de l'oubli très fin, alors que dans cette vie, il pourrait être très lourd. Tout dépend de ton contrat de vie. Mais il est évident que ce voile de l'oubli sera quand même directement proportionnel à toutes les qualités et à toutes les expériences que tu as développées, je dirais, au fil des vies antérieures. Plus ton voile de l'oubli est faible en général, plus bah, quelque part il sera faible dans tes vies futures. C'est évident. Hein? Voilà, donc là, je vais arrêter le premier enregistrement et je vais reprendre.